Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Bienvenue à un autre épisode de Mauvaise Augure. C'est moi, votre hôte Frédéric. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, pour être dans la thématique, je présente un dossier qui s'est produit un soir d'Halloween. Et demain, je vais publier un autre épisode. Ce sera une compilation de petites histoires qui sont en lien avec l'Halloween. Donc, on va commencer sans plus tarder. Les événements qui suivent se sont déroulés dans la ville de Minneapolis le 31 octobre 2002. Chris Jenkins avait une vie prometteuse devant lui. Alors âgé de 21 ans, il était étudiant à l'Université du Minnesota en affaires, et il allait être diplômé prochainement. C'est un jeune homme décrit comme étant enjoué, de type farceur, quelqu'un de facile d'approche, et il avait un grand cercle d'amis. Il aimait bien le sport et les activités physiques. Il a même été capitaine de son équipe de lacrosse à deux reprises. Le soir de l'Halloween, voulant s'amuser et faire la fête, Chris et sa copine Ashley Rice avaient comme projet d'assister à une soirée costumée. La soirée se donnait au Lone Tree Bar and Grill, qui se situe au centre de Minnesota. C'est aussi l'endroit où Ashley travaillait. Il est à noter qu'Ashley et Chris se fréquentaient seulement aussi depuis 2 mois. Donc, Chris était costumé en natif américain et Ashley avait choisi de se costumer en policière sexy. Bon, je sais que son costume, c'est pas très politically correct, mais c'est une autre époque. Ça date de quand même 18 ans. Accompagné de 2 amis, le groupe arriva au Lone Tree Bar and Grills aux alentours de 10h30 p.m. La soirée se déroula bien. Il y avait plein de beau monde, l'alcool coula à flot. Mais aux alentours de minuit, elle coula sur le costume de Chris. Semble-t-il que Chris aurait échappé un verre sur son pantalon ou il se serait simplement uriné dessus. C'est pas trop clair ce qui est arrivé vraiment, mais en tout cas, la sécurité voyant ça, elle croyait que ça avait pissé dessus, donc ils l'ont foutu à la porte de l'établissement, puis le chef de la sécurité a donné l'ordre de plus le centre et Chris dans le bar. Donc, le pauvre s'est retrouvé dehors par une température de moins 6 Celsius, sans son manteau. Ça, j'imagine qu'il était au vestiaire, il n'en parle pas vraiment. Mais en plus, il avait pas ses clés, son portefeuille, ni son cellulaire, parce que n'ayant aucune poche ou espace de rangement sur son costume d'Indien, il avait tout donné ses affaires à Ashley pour qu'elle les mette dans sa sacoche puis qu'elle y redonne à la fin de la soirée. Après s'avoir fait éjecter du Lone Tree Bar, Chris disparut dans la nuit. Et personne ne l'aura vu depuis. Il sera porté disparu très peu de temps après. Mais les policiers ne prennent pas trop sa disparition au sérieux. Les parents de Chris, Jan et Steve Jenkins, étant un peu satisfaits par le travail fait par les policiers, décideront de prendre les choses en main et mèneront leur propre enquête. Après avoir questionné des gens présents à la soirée, quelques personnes ont prétendu voir Chris se dirigeant en marchant vers le nord, en direction du pont sur Hennepin Avenue. Ça semblait logique car c'était le chemin le plus rapide pour se rendre aux résidences scolaires où Chris demeurait. Ensuite, les parents de Chris se rendront à la Federal Reserve Bank qui se situe près du pont. Par chance, le bâtiment était équipé de caméras extérieures, dont 2 qui étaient pointées en direction du pont. Le système de sécurité de la Federal Reserve Bank était à la fine pointe de la technologie. Plusieurs professionnels visionnaient les enregistrements et ils concluent tous que Chris n'a jamais traversé le pont. Les forces de l'ordre ne prenaient toujours pas la disparition de Chris au sérieux. Donc, les parents de Chuck s'offrirent les services d'un détective privé qui se nomme Chuck Loesch. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas, Chuck ne perdit pas de temps. Il alla questionner les employés du Lone Tree Bar and Grill. Mais étrangement, tous les employés racontèrent la même histoire. Et ça, c'est que Chris serait parti de son plein gré, puis que la sécurité ne l'aurait jamais mis à la porte. Bon, ça, il peut avoir plusieurs raisons. Ça veut pas dire qu'ils sont impliqués dans la disparition de Chris. Ils peuvent se couvrir les arrières à cause qu'il peut avoir des mineurs qui fréquentent l'endroit, ou que l'établissement peut être impliqué dans la vente de narcotiques. Donc, ça peut être pour beaucoup de raisons que l'établissement veut pas coopérer dans l'enquête, mais en tout cas, le propriétaire du Bar and Grill, après, engagea un avocat et spécifia à ses employés de ne parler à personne sans sa présence. Donc, Chuck, en menant son enquête, a appris aussi que le même soir, un homme non identifié se serait fait tabasser par une dizaine d'individus. Tout ça s'est passé devant le restaurant Times Square Pizza. qui se trouve juste au bord de la rue du Lone Bar and Grill. Mais les témoins ne pourront pas confirmer l'heure de l'attaque. Beaucoup croient que ça aurait été une initiation de gang de rue. Ensuite, la famille Jenkins aura recours à deux chiens pisteurs, et ce, en deux occasions séparées. Les deux détecteront l'odeur devant le Bar and Grills, qui se dirigea après vers le Times Square Pizza pour ensuite se diriger vers un stationnement couvert qui est adjacent à la pizzeria. Les deux chiens finiront leur route sur le même espace de stationnement. Et le soir de l'Halloween, cet espace de stationnement était, semble-t-il, occupé par un agent de sécurité du bâtiment. Après, les chiens détecteront aussi l'odeur de Chris sur le véhicule de cet agent de sécurité. Bon, là, c'est pas très clair dépendamment des sources. Il y en a qui disent que le véhicule appartiendrait à Mike Casey, tandis que d'autres sources diraient que ça serait un gardien de sécurité qu'on connaît pas l'identité. Mais des gouttelettes de sang, une ficelle rouge et une plume provenant sûrement du costume de Chris seront aussi trouvées sur les lieux. Bon, revenons à Mike Casey. Vous vous demandez sûrement c'est qui, lui? Ben Mike, c'est un policier qui, dans ses temps libres, aime bien être agent de sécurité. Il travaille pour une entreprise dans le même bâtiment que le Lone Tree Bar and Grill. Et c'est ce cher Mike qui a prêté les parties de son uniforme de police pour le costume de Casey. Ashley, désolé. Et oui, les deux se connaissent déjà dû à leur travail. Et de plus, ce serait ce cher Mike Casey comme un vrai gentleman qui aurait reconduit Ashley chez elle après l'événement au Lone Tree Bar. Bon, je dois avouer que Mike Casey, dans ce dossier-là, il est quand même assez louche. Ashley a l'air d'avoir une aventure avec, mais ça, on va y revenir à la fin dans les théories. Les policiers responsables du dossier prirent connaissance des circonstances entourant Mike Casey. Mais étant solidaires entre hommes de métier, ils ne prendront même pas la peine de questionner Casey. Mais ça s'arrête pas là, en plus, plus tard, ils vont déclarer
« C'est un homme marié avec des enfants. Nous ne voulions pas briser une famille. »
Ça semble dur à croire, mais c'est vrai. Ce bon vieux Mike Casey, ça aurait pas été un policier, crois-moi que... Les enquêteurs seraient donné un plaisir de gâcher sa vie. Anyway, c'est à lui de pas coucher avec d'autres femmes s'il est marié et il a des enfants, that's it.
Bon, le 27 février 2003, 4 mois après la disparition de Chris, son corps est trouvé flottant sur la rivière Mississippi près du pont sur la 3e avenue. Ça, c'est à peu près à, je dirais, 1 kilomètre du Lone Tree Bar and Grills. Il est encore costumé en indien. Il est accroché aux branches d'un arbre brisé, il flottait couché sur le dos, le visage vers le ciel, et avait les mains croisées. Un médecin légiste mena une autopsie et aucun signe de violence ou blessure quelconque ne put être observé. Il avait un taux de 0.12 d'alcool dans le sang et des traces de GHB furent aussi détectées. Donc, les policiers responsables du dossier en ont conclu que Chris a dû tomber du pont et aurait perdu la vie en se noyant. Soit par accident ou bien par suicide. Les parents de Chris ne sont vraiment pas satisfaits de leur conclusion, ne croyant pas une seconde que Chris a pu tomber du pont ou se serait enlevé la vie.
Il ne faisait rien, ne voulant pas faire d'efforts, au moins tassez-vous de notre chemin. Nous avons perdu foi au système en lequel nous avons cru.
Et semble-t-il qu'un policier lui aurait même suggéré que Chris aurait peut-être sauté du pont pour tenter de secourir un pauvre canard blessé. Mais pour cela, je vais m'abstenir de commentaires, on va continuer. Ensuite, les Jenkins consulteront beaucoup de spécialistes, dont un qui est le docteur Michael Baden, un médecin légiste réputé. Le docteur Baden réinspecta le rapport d'autopsie et les photos. D'après son expertise, la façon que le corps de Chris a été retrouvé ne concordait pas avec la thèse des enquêteurs. Car la majorité des victimes de noyade sont retrouvées positionnées sur le ventre, le visage dans l'eau et les bras allongés de côté, ayant souvent perdu une chaussure ou même les deux. Et leurs vêtements sont habituellement tout froissés et défaits. Mais dans le cas de Chris, comme j'ai dit précédemment, il était couché sur le dos, il avait les mains croisées, et de plus son chandail était encore inséré dans ses pantalons, et il avait encore ses deux grosses chaussettes de style mocassin. Tout semble laisser croire que Chris était déjà mort avant d'être placé à cet endroit. Oh, les lieux avaient déjà été fouillés quelques semaines après sa dispersion. La rivière n'était pas gelée journée-là, donc il est conclu que son corps aurait été amené par le courant. Mais il y a de quoi qui me semble logique, puis j'ai pas vu vraiment dans les articles que j'ai lus. Pour que les mains de Chris restent croisées, faut que son corps soit en état de rigueur mortis. Ça, c'est la rigidité cadavérique, hein,
en français. Mais c'est ça, si la rivière était dégelée, son corps devait pas être gelé non plus, j'imagine, je sais pas trop. Puis c'est ça, les premiers signes de rigidité cadavérique arrivent juste après quelques heures, puis ça, c'est du calcium qui s'accumule dans les muscles, c'est pour ça que ça les rend rigides. Mais cet effet-là, ne dure pas si longtemps que ça, ça dure peut-être 36 à une quarantaine d'heures, peut-être. Mais comme j'ai dit, j'ai pas trop lu rien là-dessus, ça pourrait indiquer qu'il serait mort pas longtemps avant qu'il ait découvert son corps. En plus, les parents de Chris ont déclaré qu'ils trouvaient ça vraiment bizarre que le rapport d'autopsie prétende qu'il n'y avait aucune blessure sur le corps de Chris. Qu'en semble-t-il qu'il y avait tout le temps des blessures dues au fait qu'il était gardien de but pour son équipe de lacrosse. Puis il avait joué deux pratiques, puis un match dans les jours précédents sa disparition. Donc d'après leur hypothèse, pour que les blessures et les ecchymoses de Chris guérissent, il aurait été sûrement en vie plus longtemps après le soir de l'Halloween. Il y a même des hydrologues qui ont étudié le courant de la rivière Mississippi, puis ils ont de fortes raisons de croire que le corps de Chris n'a pas pu être dans la rivière pendant 4 mois. Il y aurait quelqu'un qui l'aurait vu bien avant. Et l'hypothèse qu'il se serait jeté du pont ou tombé par accident, ou même que quelqu'un l'aurait peut-être lancé en bas, semble impossible, car le rapport d'autopsie démontre que Chris avait pas de blessure sérieuse et la façon dont le pont est disposé est pratiquement impossible de pas se blesser. Il y a comme des poutres d'acier puis des corbes en métal, puis en tombant, c'est sûr que la personne va les percuter puis se blesser. Pendant près de 3 ans, aucun développement ne sera fait dans le dossier. Mais les parents de Chris n'ont jamais abandonné. C'est seulement en 2006 que le nouveau chef de police, Tim Dolan, rencontra les parents de Chris. Et après les avoir écoutés et constaté les faits, il réouvrira le dossier. L'ancienne conclusion de noyade accidentelle fut changée pour homicide. Tim Dolan convoqua alors la presse pour s'excuser publiquement envers la famille Jenkins. Voici un extrait de ce qu'il a dit.
Nous avons fait des suppositions, et dû à ces suppositions, nous avons probablement causé du tort. Oui, nous avons créé douleur à la famille Jenkins. Plus de souffrance à subir qu'ils n'en ont déjà souffert. Et pour le département de police de Minneapolis, je tiens à m'excuser envers la famille Jenkins.
Bon, c'est bien beau les excuses publiques, mais si la disparition de Chris aurait été prouvée sérieuse dès le départ, il aurait peut-être déjà trouvé le meurtrier. Puis peut-être même que sa mort aurait pu être évitée, ça on le saura jamais. Une autre preuve que l'enquête a été négligée, c'est qu'en revoyant les photos, ils ont pu remarquer que sur un des clichés, Chris avait une poignée de cheveux dans la main gauche. Il n'y a jamais eu de tests qui ont été faits sur ces cheveux-là avant. Mais au moins, se sont donné la peine de les mettre dans une enveloppe et de les archiver. Des tests d'ADN ont été effectués et ça prouve être les cheveux de Chris. Bon, c'est sûr, mais ça aurait pu être quand même une preuve qu'il aurait laissé dormir pendant 3 ans, mais ça ne l'était pas. Ça n'a rien changé dans le dossier, heureusement, parce qu'il aurait eu l'air encore plus con. Plus tard, en 2006, il y a un détenu non identifié qui prétendait avoir assisté à la mort de Chris. Il racontait aux enquêteurs que le soir de l'Halloween, lui et une connaissance auraient croisé Chris sur le pont. L'autre personne qui l'accompagnait aurait alors tenté de voler Chris, mais voyant qu'il n'avait aucun objet de valeur ni argent, furieux, il l'aurait lancé en bas du pont. Mais comme j'ai dit, ça contredit un peu le fait qu'il se serait blessé en tombant sur les poutres d'en métal ou les cordes d'acier. Donc la police prenait pas trop ce renseignement au sérieux. Mais ça date pas d'hier qu'il y a des détenus qui tentent de se mêler à des enquêtes et prétendent avoir des renseignements. Tout ça pour avoir soit des privilèges ou des diminutions de sentence ou même juste de l'attention. Et depuis ce temps, la police a eu quelques suspects, mais rien de concret. Le dossier est à nos jours encore non résolu. Et il sera peut-être jamais malheureusement. Bon, maintenant on arrive aux théories, mais avant d'apporter les théories, je tiens à ajouter que j'ai pas vu ça nulle part, mais peut-être que l'autopsie, elle a été un peu bâclée aussi. Et j'ai vraiment un doute que ça serait le cas. Bon, je vais y aller en ordre de celle que je crois le moins jusqu'à celle la plus plausible d'après moi. La première théorie est l'accident ou le suicide. Et oui, il y en a encore, même après avoir pris connaissance du dossier, qui croient encore que Chris se serait enlevé la vie, ou qu'il serait tombé en bas du pont. Au début, j'y croyais un peu, mais quand j'ai vu qu'il avait les mains croisées, mes doutes se sont évaporés. C'est sûr que c'est un meurtre. La deuxième, c'est que Chris aurait été victime du Smiley Face Killer. Je dois avouer que je connaissais pas vraiment le Smiley Face Killer à part de nom. Mais c'est assez nébuleux, je suis allé voir un peu, c'est sûr que je vais aller me renseigner plus prochainement. Mais c'est ça, c'est soit une personne ou peut-être un groupe de personnes. Ou qu'il y a peut-être même des copycats écoute, ça, c'est quand un tueur copie les méthodes d'un autre tueur connu ou recherché. Souvent, les raisons d'agir des copycats sont soit pour essayer de dissimuler leur crime puis enlever les soupçons sur eux, ou juste pour rendre hommage à un tueur. Mais c'est ça, semble-t-il que le Smiley Face Killer ou Killers aurait opéré entre les années 90 et 2010. Il y a à peu près 45 jeunes, tous des jeunes hommes étudiants, qui ont été reliés à ce que. Bon, maintenant, le fameux Mike Casey, je crois pas tant que ça, j'aurais dû le mettre avant le Smiley Face Killer. C'est sûr que son comportement est vraiment douteux, mais ça peut être juste un gars qui veut tirer son coup en trompant sa femme, ça. Ça fait pas de lui un tueur non plus, mais j'ai quand même un doute. Il aurait juste fallu qu'il soit plus interrogé au départ de l'enquête. Je sais pas si ça a été fait quand M. Nolan s'est excusé auprès de la famille Jenkins, si on réinterrogé tous les témoins, comme Mike Casey, évidemment, ou la copine à Chris, Ashley. Ça faisait juste 2 mois qu'ils étaient ensemble. Je pense pas qu'elle l'aurait fait tuer pour coucher avec Mike Casey. On sait pas, il y a du monde tordu, mais je serais surpris. C'est souvent plus des longues relations que 2 mois. Mais on vit dans un monde de fous. Sinon, il y a Jeremy Alford. Ça, c'est la dernière théorie. Alford est devenu suspect dans la mort de Chris en 2007. Il sort déjà une sentence de prison à vie après que lui et son petit frère aient tué un homme dans une attaque particulièrement horrible. À coups de couteau, marteau, barre de métal et fourchette à viande. Ils ont ensuite fait brûler le cadavre et la maison où ils se trouvaient. Semble-t-il que Jeremy Alford, fréquentait le Lone Tree Bar and Grills en 2002, à l'époque de la disparition de Chris. Il y aurait des chances, ça pourrait être lui, mais c'est pas le même genre de meurtre trop. Un qui est vraiment sanglant, à coups de couteau, de marteau, à fourchette à viande. Puis Chris qui a aucune trace de violence sur lui. Donc, la police n'a pas levé de charge à rien contre Jeremy Alford. Mais ça a l'air crissement d'un dossier intéressant, les deux frères Alford. C'est sûr que je vais peut-être vous arriver avec un épisode si je trouve assez de documentation pour monter ça. Parce que qu'est-ce qui semble le plus plausible, c'est que Chris se serait fait asphyxier par un sac en plastique, vu qu'il n'y avait aucune blessure. Mais la mère de Chris, elle a écrit un livre, je me souviens pas du titre exact, mais dans son livre, elle croit que Chris aurait été enlevé dans une vanne. Que la vanne serait promenée dans la ville, qu'il aurait été torturé pendant ce temps-là, et après il aurait été déposé à la rivière, déjà mort. Possiblement dans un rituel satanique ou des associations de gangs de rue. Bon, je suis pas trop d'accord avec sa conclusion. Je sympathise avec la mort, puis la famille, ça doit être vraiment pas facile. Mais torturé, ça aurait été apparent à l'autopsie, même si l'autopsie a été bâclée, il aurait vu des marques ou de quoi, là. À moins que le médecin légiste était aveugle. Il y a aussi le fait qu'elle amène Satan là-dedans. Ça doit être quelqu'un de croyant, j'imagine. Parce qu'on n'est plus dans les années 90, là, satanique panique. Les gangs de rue, l'initiation de gangs de rue, j'y crois pas vraiment non plus. Parce que les gangs de rue sont pas réputés pour faire du travail propre que la police a de la misère d'identifier la cause de la mort. Les autres, c'est plus boucherie, drive-by avec des guns. Bon, en tout cas, ça fait pas mal le tour du dossier de la mort de Chris Jenkins. J'espère que vous avez apprécié. Vous voulez donner vos avis sur n'importe quel des épisodes. Il y a le groupe Facebook. Là, il y a Instagram que je viens de partir aussi. Vous pouvez donner vos avis aussi sur Instagram et me suivre. C'est mauvais augure. Je pense qu'il n'y a pas d'espace. Si vous voulez me suggérer des cas aussi, gênez-vous pas. Envoyez-moi ça. Vous pouvez me contacter aussi par email. Mauvais augure podcast à commercial@gmail.com. Bon, sur ce, mes chers auditeurs, passez une belle Halloween, portez-vous bien et n'oubliez pas de décorer vos volets, débarrer vos portes et donner des bonbons.
Le meurtre prémédité.
De nombreuses recherches qui avaient été effectuées.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.
Ha ha ha.